envoyé au cœur. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour l'Afrique, Morgane Guiriec au micro, Anne Albertson en ma compagnie. Bienvenue à cette édition du lundi 9 mars 2015. Au sommaire ce matin.
Week-end sanglant au Mali. Après l'attentat qui a fait 5 morts samedi à Bamako, une base de l'ONU a été la cible de tirs de roquettes à Kidal hier, qui ont tué 2 enfants et un casque bleu tchadien.
Il faut le rappeler, la ville de Kidal est encore sous occupation des rebelles Touareg en présence des casques bleus onusiens et une unité de la force Barkhane.
Les armées du Niger et du Tchad ont lancé dimanche une offensive contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria.
En Guinée, 2 vaccins contre Ebola ont été testés ce week-end à Conakry.
Comme tous les vaccins, on ne sait pas encore parce que c'est le premier essai, mais je suis prêt à affronter les effets. Mais les essais qu'on a fait dans les autres pays, notamment au Mali, les 180 personnes m'ont dit qu'ils n'ont pas eu d'effet. C'est pour ça qu'ils m'ont donné le courage aussi d'être le premier à être vacciné.
Retour sur la journée de la femme célébrée hier dans le monde entier.
La femme doit avoir la même chance que l'homme sur tous les plans. Parce qu'elle aussi, elle est intelligente, elle est dotée de potentialités.
Nous partirons à la rencontre de femmes à Goma, dans l'est de la RDC. La Minute Éco et les sports en fin de journal. Mais avant, le journal.
Week-end sanglant pour le Mali après l'attentat qui a fait 5 morts samedi à Bamako. Une base de l'ONU a été la cible de tirs de roquettes à Kidal. Cette dernière attaque dans le nord-est du pays a tué 2 enfants et un casque bleu tchadien. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Ce dimanche matin, à Kidal, vers 5h heure locale, la ville s'est réveillée par plusieurs détonations de roquettes. Le camp de la MINUSMA a été la cible. Un casque bleu tué du contingent tchadien et 8 autres blessés. Une famille arabe située près du camp des soldats de la paix a été touchée également par ces tirs de roquettes faisant 2 tués et 3 autres blessés dont une femme grièvement. Les dégâts matériels sont énormes. Les populations très inquiètes s'interrogent. Il faut le rappeler, la ville de Kidal est encore sous occupation des rebelles Touareg en présence des casques bleus onusiens et une unité de la force Barkhane. L'armée malienne qui souhaite avoir le contrôle de la ville a été chassée de cette ville en mai 2014 suite à la visite controversée de Moussa Mara, premier ministre d'alors. Gao Boubacar Touré pour VOA Afrique.
À noter que le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné cet acte qu'il qualifie d'odieux. Ses auteurs vont devoir rendre des comptes, avertissent les Nations Unies.
Et c'est dans ce contexte de violence que le lycée français de Bamako annonce sa fermeture exceptionnelle aujourd'hui et demain afin que sa sécurité soit renforcée.
Les armées du Niger et du Tchad ont lancé dimanche une offensive militaire terrestre et aérienne d'envergure contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, zone frontalière avec le Niger. Chérumain Orsil nous en dit plus.
Cette offensive annoncée hier par Niamey signifie l'ouverture d'un nouveau front contre Boko Haram. On se rappelle que l'armée tchadienne mène depuis fin janvier une autre offensive en territoire nigérian depuis le Cameroun de l'autre côté du lac Tchad. Selon une source jointe par l'AFP, la nouvelle offensive a été lancée depuis 2 positions différentes le long de la frontière entre le Niger et le Nigeria, dans la zone de Bosso qui jouxte la rive ouest du lac Tchad et près de la ville de Difa, à quelques 80 km au sud-ouest de Bosso. Des milliers de soldats nigériens et tchadiens étaient positionnés depuis plus de mois en posture défensive dans la province de Difa, où les militants de Boko Haram mènent des attaques depuis un mois. C'est au début du mois dernier que le Parlement nigérien a donné son feu vert pour l'envoi de troupes au Nigeria, où elles participent à la lutte contre Boko Haram dans le cadre d'une force multinationale. Selon l'armée nigérienne, des combattants de Boko Haram sont repliés au sud de Malam Fatori, une ville nigériane très proche de Bosso, après avoir perdu 3 localités, dont Baga, qu'ils occupaient.
Le roi du Maroc aurait refusé de s'entretenir avec le président nigérian. C'est ce que révèle une source diplomatique de l'AFP. Rabat aurait ainsi convoqué le chargé d'affaires du Nigeria pour lui signifier le refus du roi de s'entretenir avec Goodluck Jonathan. Pour justifier ce refus, le ministère marocain des Affaires étrangères a évoqué dans un communiqué le contexte électoral au Nigeria, en référence à la présidentielle du 28 mars, ainsi que les positions hostiles d'Abuja sur le dossier du Sahara occidental.
Monsieur Goodluck Jonathan, Tan est président depuis 5 ans et n'avait jusque-là effectué aucune demande de contact téléphonique. On ne peut donc trouver qu'une signification à sa démarche, celle de vouloir s'afficher avec un dirigeant d'un pays arabe et musulman à l'approche des élections, a expliqué à l'AFP cette source diplomatique marocaine.
En Guinée, deux vaccins contre Ebola ont été testés ce week-end à Conakry. Ces produits ont été mis au point par l'Agence de la Santé du Canada. Ils ont été administrés pour la première fois en Guinée sur des médecins. De Conakry, Zakaria Camara nous en dit plus.
En attendant une vaccination à grande échelle, les volontaires ont reçu samedi leur première dose de vaccin contre le virus Ebola. Parmi les cobayes, le ministre guinéen de la Santé et le coordinateur national de lutte contre Ebola. Le médecin Rémi Lama et le docteur Sakoba Keïta, par ce geste, entendent rassurer les Guinéens.
Il ne faut plus que la population se prête à des fausses rumeurs. C'est pourquoi nous sommes portés candidats pour les rassurer. C'est de la réalité.
Comme tous les vaccins, on ne sait pas encore passé, c'est le premier essai, mais je suis prêt à affronter les effets. Mais les essais qu'on a fait dans les autres pays, notamment au Mali, les 180 personnes m'ont dit qu'ils n'ont pas eu d'effet. C'est pour ça qu'ils m'ont donné le courage aussi d'être le premier à être vacciné.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'un essai clinique pour tester l'efficacité des vaccins RV, SV et Zebov contre Ebola. La vaccination aura lieu dans la région de la Basse-Guinée qui dénombre actuellement le plus de cas de maladie à Ebola. Le représentant de l'OMS en Guinée parle de la stratégie de cette campagne de vaccination.
On va partir des malades. On va chercher les contacts autour de ce malade. Et ces contacts et leurs familles, leurs voisins, s'ils le veulent, on va les vacciner. Et on va les suivre pendant 84 jours pour nous assurer que tout se passe très bien.
10 000 personnes seront concernées pour cette première phase. Ceux qui le souhaitent pourront être vaccinés, sauf les femmes enceintes et les moins de 18 ans. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Attentat à Alexandrie, dans le nord de l'Égypte. Un passager d'un minibus a été tué hier dans l'explosion d'une bombe près d'un hypermarché. D'après la police, 3 personnes ont été légèrement blessées dans 2 autres attaques.
En Égypte toujours, la justice a reporté au 19 mars le procès des journalistes d'Al Jazeera, Mohamed Fahmi et Baher Mohamed. Ils sont accusés d'avoir aidé une organisation terroriste et d'avoir diffusé des images falsifiées visant à endommager la sécurité nationale. Al Jazeera est basé au Qatar, qui soutient les Frères musulmans, organisation interdite en Égypte. Rappelons que les 2 journalistes ont obtenu une libération conditionnelle le mois dernier en attente de leur jugement.
Une réunion de dialogue doit se tenir demain à Alger entre des parties au conflit libyen, rapporte l'AFP, qui cite le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, cité par l'AFP. Elle réunira une 15aine de dirigeants politiques de premier plan, des chefs de partis et de grands militants connus sur la scène libyenne, a-t-il précisé.
Lutte contre l'État islamique en Irak, l'armée américaine ne prévoit pas d'accélérer les frappes aériennes de la coalition internationale contre l'organisation djihadiste. C'est ce qu'affirme le chef d'état-major interarmée américain, alors que l'armée irakienne fait face à une forte résistance des insurgés dans le nord du pays. Le point avec Henri Francisque.
Larguer un tapis de bombes sur l'Irak n'est pas la solution, a déclaré le général Martin Dempsey en tournée dans le Golfe. Séjour au cours duquel il doit notamment se rendre à Bagdad. Comme le souligne l'AFP, le chef d'état-major interarmes américain a plaidé pour une patience stratégique. Nous avons la responsabilité d'être très précis dans l'usage de notre puissance aérienne, expliquait le général Dempsey, assurant qu'augmenter le rythme des raids aériens accentuerait les risques pour les populations civiles, ce qui pourrait alimenter en retour la propagande djihadiste. Il faudra donc prendre le temps de rassembler des renseignements précis sur les cibles possibles, prévient le plus haut gradé américain. Rappelons que de son côté, le gouvernement irakien mène depuis une semaine une offensive massive contre l'État islamique afin de reconquérir Tikrit, située entre la capitale Bagdad et Mossoul, la plus importante ville contrôlée par les djihadistes.
Pour parler sur le nucléaire iranien, Barack Obama affirme que les négociateurs américains et iraniens ont réduit leurs divergences sur le programme de Téhéran. Le président américain se dit cependant prêt à mettre fin aux négociations si aucun accord acceptable ne peut être atteint. S'exprimant sur la chaîne américaine CBS, il a déclaré que tout accord doit permettre aux inspecteurs occidentaux de vérifier que l'Iran ne cherche pas à développer l'arme nucléaire.
L'Union sioniste, bloc de centre-gauche et principal rival de Benjamin Netanyahou pour le scrutin du 17 mars en Israël, a dévoilé un programme centré sur l'économie et le social, ainsi que les relations avec Washington, mises à mal par les tensions sur l'Iran. Freiner l'isolement diplomatique d'Israël et enrayer la hausse continue du coût de la vie sont les deux priorités que s'est fixée l'Union sioniste, alliance du parti travailliste mené par Yitzhak Herzog et du parti centriste Hatnoua mené par Tzipi Livni, selon un communiqué du parti publié dimanche. Livni soutient Herzog pour le poste de Premier ministre en cas de victoire.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le géant L'Oréal et le groupe CFAO ont signé un partenariat de production et de distribution de produits cosmétiques en Côte d'Ivoire, a rapporté l'AFP. CFAO apportera ses capacités de distribution et sa connaissance approfondie des pays et des marchés africains, indiquent les deux groupes dans un communiqué. Ce partenariat est une opération stratégique pour L'Oréal en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone de l'Ouest, a dit Geoff Skingsley, directeur de la zone Afrique-Moyen-Orient. Kigali a signé un partenariat avec le géant des équipements Télécom Ericsson pour la réalisation du projet Smart Rwanda, a indiqué Afrique IT News. Le ministre de la Jeunesse et d'Éthique, Jean-Philibert Nsengimana, a déclaré que la cible n'est pas seulement la technologie, mais comment elle peut être utilisée pour fournir de meilleurs services, créer des emplois et transformer la société rwandaise dans un environnement économique en perpétuelle mutation.
Et tout de suite, les sports avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Morgane.
Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans, la compétition a démarré à Dakar au Sénégal.
Et le Nigeria a démarré très fort ce tournoi en battant le pays hôte, le Sénégal, sur la marque de 3-1 grâce à un doublé de Taiwo Oyoniyi. Le Nigeria a tenu donc son statut de favori dans ce groupe. En deuxième heure, la Côte d'Ivoire et le Congo n'ont pas pu se départager. Score final, 1-0. La compétition se poursuit donc ce lundi avec l'entrée en lice des équipes du groupe B. Le Ghana sera aux prises avec l'Afrique du Sud et pour la seconde affiche, le Mali joue la Zambie.
La Fédération malienne de football a mis fin au contrat du sélectionneur des Aigles, Henri Kasperczak.
Oui Morgane, pourtant le technicien franco-polonais avait été maintenu à son poste après l'élimination des Aigles au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu en Guinée équatoriale. Mais son contrat arrivé à terme ne sera donc pas renouvelé par la Fédération malienne de football qui a mis fin à sa mission à la tête des Aigles. Le nom de son successeur sera connu d'ici le 25 mars prochain.
16e journée du championnat national de football de la première division du Bénin à Estoner leader.
C'est suite à sa victoire de 2-0 en déplacement à Djougou face aux Panthères que l'Estoner de Boycon s'empare de la tête de ce championnat. Avec désormais 14 points au compteur, les hommes de Youssoufou Moukaïla profitent du match nul de l'AS Police à Adjara face à Ema 0-0 pour prendre seul les commandes. Tonnerre a un point d'avance sur l'AS Police et 3 points sur les Dragons de Porto-Novo et Béké FC de Bébéréké, respectivement battus par Énergie 2-1 et Aspac 1-0. Pour les autres résultats, notons la réaction des Buffs de Parakou. Après son élimination en Ligue des Champions par Enimba, le club du Nord du Bénin a battu Assos 2-1. La jeunesse sportive d'Agonli a enregistré sa deuxième victoire de la saison en battant Mogas 90 1-0.
Basketball avec les éliminatoires de l'Afrobasket.
Le Gabon s'est qualifié pour la phase finale qui aura lieu en Tunisie du 19 au 30 août prochain grâce à sa victoire 72-56 face au Tchad dans le cadre des éliminatoires jumelés des Jeux africains et afro-basket. Avec cette troisième victoire en 4 matchs, le Gabon termine premier de la zone 4 devant la République centrafricaine et le Tchad. Et puis, on reste avec vous Morgane pour avoir les résultats des matchs joués cette nuit en NBA.
Chicago, San Antonio, 105-116. Los Angeles, Clippers, Golden State Warriors, 98-106. Utah Jazz, Brooklyn Nets, 95-88. Charlotte, Détroit, 108-101. Boston, Orlando, 98-103. Toronto Raptors, Oakland, 104-108. Dallas, Los Angeles Lakers, 193.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgan Diriek en votre compagnie pour cette édition du 9 mars 2015. Place au dossier du jour. Le week-end a été particulièrement sanglant au Mali. À Kidal, une base de l'ONU a été la cible de tirs de roquettes faisant 3 morts hier. Et la veille, l'attentat dans le restaurant La Terrasse de Bamako a fait 5 morts, dont un Français, un Belge et 3 Maliens. Une attaque revendiquée par le mouvement islamiste Al-Mourabitoun, dont le leader est Mokhtar Belmokhtar, alias Khaled Abou Al-Abbas. Depuis, les autorités maliennes tentent de renforcer la sécurité dans la capitale, la protection des personnes et leurs biens. Une enquête a également été ouverte pour retrouver les auteurs de Bamako. Le reportage de Kassim Traoré.
Les Bamakois, en apprenant cette nouvelle, n'étaient pas surpris, car il y a eu beaucoup de signaux avant ces crimes.
Nous voyons vraiment l'insécurité grandissante dans notre ville. Ça, c'est un truc vraiment qui fait extrêmement peur. Et nous demandons à l'autorité malienne vraiment de s'attendre pour essayer de mettre fin tout de suite à ça. Vu l'état actuel du pays, et si la ville sera infiltrée par des djihadistes, ça fait peur, ça fait trop peur.
Cet attentat est le premier à Bamako depuis l'éclatement de la crise de 2012 au Mali.
Auparavant, ne connaissait pas ce genre de système. Vous voyez, et puis ils se suivent de façon simultanée. Là. À mon avis, c'est très simple. C'est à monsieur le président de prendre les responsabilités ici pour que les populations puissent se sentir dans la sécurité totale. C'est de renforcer encore une fois de plus la sécurité sur toute la tenue du territoire national.
L'acte commis par des individus non identifiés pose la question de la véritable sécurisation de la capitale malienne avec des forces de l'ordre qui souvent ne jouent pas pleinement leur rôle.
La lettre de Fouquet, comment on appelle ça, le comportement même des agents de sécurité. Ces gens-là, généralement, ils ne sont jamais concentrés. Généralement, on les voit, ils sont assis à prendre du thé ou l'âme en bas du lierre, ils ne suivent pas. On constate qu'ils n'ont pas vraiment une vraie formation, quoi. Une formation de véritables agents de sécurité ou de défense. Parce qu'un soldat, il doit être toujours prêt à toute éventualité.
À la suite de cet attentat, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son premier ministre se sont rendus sur les lieux du crime. Ils ont aussi rendu visite aux blessés dans des hôpitaux de la capitale. Pour le ministre porte-parole du gouvernement, l'heure est à la mobilisation.
Je crois qu'aujourd'hui, la mobilisation des Maliennes et des Maliens est plus que jamais nécessaire. Nos forces de sécurité continuent leurs enquêtes. Le gouvernement ne se laissera ni distraire, ni impressionner, encore moins intimider par ceux qui se sont donnés à ces actes-là.
Le week-end passé a été noir au Mali. Avec l'attentat à Bamako, le lynchage à Gao de 2 présumés poseurs d'explosifs et les 30 roquettes qui ont été lancées sur le camp de l'aménagement à Kidal, occasionnant 3 morts, dont un casque bleu. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En Côte d'Ivoire, la tournée du président Ouattara dans les régions productrices de cacao et de café s'est terminée ce week-end. Les préoccupations des populations tournent autour de la sécurité, la cherté de la vie et surtout l'impraticabilité des routes qui constituent un frein pour l'écoulement des produits. Les précisions de Germaine Dry à San Pedro.
Les régions de San Pedro, Beauclair et Nawa sont des grandes productrices de café et de cacao de la Côte d'Ivoire. Elles totalisent à elles seules la moitié des productions agricoles d'exportation du pays. Mais pour y parvenir, que des difficultés. Adissi Modeste, planteur de cacao.
Il n'y a même pas de route. Les pistes, nos parents qui vont en brousse pour faire sortir leurs produits. Pas d'accès, les véhicules ne peuvent pas rentrer. Les produits sont là-bas.
La cherté de la vie est aussi une préoccupation des habitants. Kwaku Fabrice.
La vie est chère ici par rapport à la nourriture même. Elle peut élever ici, les prix des choses. En général, tout ce qui concerne la vie même à San Pedro est cher. Donc, si on peut essayer de revoir les prix des choses et puis baisser un peu les prix.
John Lass estime que de bonnes routes peuvent régler la cherté de la vie.
C'est normal que tout doit être cher parce qu'il n'y en a pas route. Tous ceux qui vont quitter en brousse pour venir, il n'y en a pas route pour faire venir tous les marchandises, tous les mangers. C'est pour cela que tout à San Pedro est cher.
Les coupeurs de route constituent un autre phénomène qui inquiète.
Les coupeurs de route, bon, ça ne finit jamais. On les prend, mais ils reviennent à tout moment.
Les gens vont en brousse. Ils sont là, ils sont tués, ils sont dépouillés de leurs biens. Bon, on ne comprend plus rien.
À Tabou, ville située à 35 km du Libéria, les autorités ne baissent pas la garde contre la fièvre à virus Ebola.
Toubaté, Iné, Georges. C'est vrai que Tabou est la porte de sortie et la porte d'entrée pour la population libérienne qui se trouve de ce côté. Mais la population et les autorités ont donné quand même le mot d'ordre que nous soyons quand même à l'abri de toute surprise désagréable.
La maladie a divisé des familles.
Abiré Félix, je suis de Dolenke, j'ai fait de Ebola. Ça nous inquiète. J'ai marié une fille libérienne, mais je ne peux même pas traverser pour aller au Libéria parce que tout a été fermé. Ma femme a perdu son papa, mais jusqu'à l'heure, on n'a pas encore parlé.
Pour toutes ces entraves énumérées, le chef de l'État a annoncé que les dispositions seront prises pour améliorer les conditions de vie des populations du Bassa-Sandra. Alassane Ouattara.
Ce que nous avons fait est insignifiant. Je prends l'engagement que nous allons accélérer ces travaux pour améliorer vos conditions de vie ici dans cette région de la Côte d'Ivoire. La sécurité est la clé de la paix. Soyez tranquilles, dormez tranquille, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour rétablir la paix et la sécurité dans cette région.
Germain Driss, San Pedro, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Retour sur la journée de la femme célébrée hier dans le monde entier, à Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Cette journée s'est tenue dans le recueillement et la réflexion. Les femmes n'ont en effet pas été épargnées lors des tueries des trois derniers mois. Correspondance de Primo Pascal Roudeigo à Goma.
La journée du 8 mars n'a pas été commémorée avec faste à Goma comme dans les années antérieures. Les femmes et les jeunes ont saisi plutôt cette occasion pour réfléchir sur le processus électoral en cours en RDC.
Ce processus m'appartient. Que je prenne conscience de ce que je vais faire, que je prenne conscience du choix que je vais faire parce que le choix que je ferai dépendra du développement de mon pays.
Ces jeunes réunis au sein du mouvement Lutte pour les changements sont déterminés à poursuivre la mobilisation d'autres jeunes pour s'approprier ce processus électoral.
Des activités de sensibilisation peuvent aider à faire prendre conscience à la jeunesse que la responsabilité est grande et que les changements dépendent de cette jeunesse.
Quelques femmes interrogées à l'occasion de la commémoration de la journée du 8 mars ont dit qu'elles sont déterminées à faire face aux hommes aux prochaines élections.
Je réponds au nom de Anouari Tebanzi, au sein du parti ARC, je suis la coordinatrice adjointe.
La femme doit avoir la même chance que l'homme sur tous les plans parce qu'elle aussi, elle est intelligence, elle est dotée de potentialités, elle doit s'y prendre et s'appliquer.
D'autres femmes, par contre, ne maîtrisent même pas les textes légaux liés aux élections.
Je reprends au nom d'Aline Kakimo, je suis membre de la Marche mondiale de femmes du Nord Kivu. Dans nos textes, a priori, ça fait la promotion de la femme. Pour dire ici présentement les textes avec articles, ça me paraît très difficile.
Madame Valérie Wasso, experte en genre et coordinatrice de la Maison de la Femme du Nord Kivu, a mis en place un cadre où les femmes peuvent régulièrement se ressourcer.
Je voudrais inviter toutes les femmes qui n'ont pas peut-être l'information que notre gouvernement a mis en place un cadre où elles peuvent se rencontrer pour échanger, pour avoir des informations. Les femmes se rencontrent chaque jeudi à partir de 9h où elles essaient de discuter, d'échanger sur certains thèmes.
Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Et toujours dans le cadre de la journée de la femme, nous vous proposons cet entretien avec Béatrice Epaille, membre du Conseil national de transition République centrafricaine, co-lauréate du Courage féminin 2015. Elle a été récompensée vendredi à Washington par le département d'État. Béatrice Epaille est notamment présidente de la fondation Voix du Cœur qui offre un refuge aux enfants des rues. Nous l'écoutons au micro de Pascaline Magali.
Le département d'État américain vient de me donner la distinction et c'est avec fierté que je l'ai reçue. Et je crois que c'est le fruit de tout le travail que je fais auprès des enfants, auprès des populations à la base, tout le travail que j'ai fait dans le Rombomont, tout le travail que j'ai fait dans l'Oise, tout le travail que j'ai fait en tant que femme politique, parlementaire, femme de la société civile. C'est ça qu'on a promu aujourd'hui. Je l'ai dédié à toutes les femmes centrafricaines qui font la même chose dans l'anonymat et qui se battent tous les jours malgré les difficultés pour essayer de changer la vie de leur famille, la vie des populations dans notre pays.
Qu'attend le gouvernement du forum de Bangui?
Le forum de Bangui, ça a été précédé par les consultations à la base, de laisser s'exprimer les populations de notre pays qui ont vécu la crise, qui ont souffert dans leur tréfonds. Et ces gens ont parlé, ils se sont exprimés, ils ont dit ce qu'ils ont vécu. Ils ont aussi demandé au gouvernement de ramener la sécurité au pays, de tout faire pour que leurs enfants aillent à l'école, de tout faire pour que les hôpitaux recommencent à fonctionner. Et aujourd'hui, c'est le tour du forum que je suis en train de préparer avec toute l'équipe. Nous avons ciblé 4 thématiques pour le forum. D'abord, la gouvernance beaucoup plus politique, où on va parler des élections, où on va parler des sujets qui fâchent dans la Constitution, des sujets sensibles. Il faut qu'on en parle. Et aussi, le développement économique et social. Et si on a eu toutes ces crises, c'est à cause de cela, à cause de la pauvreté. On va parler de la paix et sécurité, tout le programme DDR, RSS, quel type d'armée on doit mettre en place pour protéger notre population, pour défendre notre pays. Et ensuite, à la fin, on parlera aussi de la justice et de la réconciliation de notre peuple.
Béatrice Epaille, membre du Conseil national de transition en RCA.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Au Burkina Faso, les rideaux sont tombés sur la 24e édition du FESPACO, Festival de cinéma panafricain de Ouagadougou, le reportage de Zoumana Wanogo.
Étalon d'or, fièvre de Hicham Ayous du Maroc.
Après cette proclamation du palmarès, voici quelques réactions qui témoignent que le film lauréat n'était pas celui de tout le monde.
Vraiment, j'ai une grande surprise. C'était pas évident. Tout le monde pensait à Tombouctou, soit l'œil du cyclone. Hein.
Franchement, ça m'a surpris. C'est l'un des films que j'ai même pas pu visionner. Brusquement, c'est ça qu'on projette comme étalon d'or. Ça m'a surpris.
Oui, dans le carré d'as, mais je pensais pas qu'il allait être le premier.
Après avoir reçu son trophée des mains du président du Faso, voici les premières déclarations de l'étalon d'or 2015, le Marocain Hicham Ayouch.
Je voudrais juste dédier ce prix à la mémoire de mon co-scénariste qui m'a quitté il n'y a pas longtemps. Ma peau est blanche, mais mon sang qui coule dans mes veines, il est noir. Mon père est marocain, ma mère est tunisienne, et je suis africain et fier de l'être. J'ai juste besoin qu'on cesse d'exploiter mon continent et qu'on fasse couler des rivières de sang. Je suis africain et fier de l'être, et je dois apprendre à m'aimer. Et si je m'aime, alors je serai capable d'aimer tous mes frères et tous mes sœurs. Nous devons tout faire pour changer les mentalités grâce à l'art, grâce à l'imaginaire et grâce à l'éducation.
Des films fortement attendus, seul l'œil du cyclone du Burkinabé Sékou Traoré a pu tirer son épingle du jeu en montant sur la troisième marche du podium, suivant les sentiments du réalisateur Sékou Traoré.
Même si on n'a pas les talons, on doit aller toujours plus loin. Et la première satisfaction d'un créateur, cinéaste, c'est d'abord le public. Toutes ces distinctions ne doivent pas nous faire dormir. Ce n'est pas toujours à la recherche de l'étalon, mais à la recherche de l'excellence.
Le prix de la meilleure interprétation féminine est revenu à l'actrice Maïmouna Ndiaye dans L'œil du cyclone. elle ne cache pas sa joie.
On y a beaucoup cru, on y a mis vraiment tout ce qu'on pouvait dans ce film. Soulagé que le résultat soit comme ça. Bah, on est à la veille de la journée de la femme, donc je le dédie d'abord à ma maman, ensuite à mes sœurs, aux femmes africaines, aux femmes burkinabées et à toutes les femmes du monde.
Le retour du Malien Chakoumar Sissoko avec Rapt à Bamako n'aura pas été gagnant, mais il se dit très sportif.
J'ai téléphoné à toute mon équipe pour dire qu'il ne faut pas qu'ils en fassent un drame. Ils sont tous malheureux. Oh, je dis non, il ne faut pas être triste. Ça veut dire qu'il faut repenser notre film. Et je leur dis bien une chose, le jury ici peut ne pas aimer le film et notre jury peut aimer le film. Et il faut accepter que ce soit Fièvre qui l'ait gagné. Ils sont très tristes, mais moi non. Tu me vois, je comprends, je suis très sportif.
Le même esprit sportif anime aussi Abdarahmane Sissako qui repart du FESPACO sans un prix majeur alors que son film Timbuktu y est venu auréolé de plusieurs prix au César.
Timbuktu a remporté des prix déjà. Timbuktu a une lumière suffisante pour exister. Les talents, c'est une lumière de plus. Et donc, quand une lumière est donnée à un autre cinéaste, c'est la victoire du cinéma, c'est ma victoire aussi. Jamais il m'est arrivé une chose aussi extraordinaire qui est le cadeau du public ouagalais. Je suis très heureux pour Ayouch, non seulement pour la beauté de son film et la force de son cinéma, mais aussi la beauté de son discours.
On retiendra de ce FESPACO la montée en puissance de la cinématographie marocaine qui s'est adjugée les talons d'or en long métrage et en court métrage. Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Morgane Guiriec au micro, Anne Albertson à mes comptés. Un grand merci à toute la rédaction. Ainsi va le monde aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info sur